Allons entreprendre le prophète Jonas. Prophète Jonas, c'est un petit livre, dans le fond. Il y a quatre petits chapitres. Quatre petits chapitres de 16 versets, 11 versets, 10 versets, 11 versets. Vous voyez, c'est un livre, en somme, peu développé. Et cependant, très intéressant et très riche en leçons pour nous. Et nous allons lire simplement d'abord les trois premiers versets. Trois premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas signifie, c'est un mot qui en hébreu signifie colombe. Que peut-on tirer de cette signification? À vrai dire, on ne sait pas trop, mais c'est ainsi. Il est fils d'Amittai, et ce Jonas est mentionné dans le deuxième livre des rois, comme tel, fils d'Amittai, deuxième livre des rois, chapitre 14 et au verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur, Jonas le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Ainsi donc, nous apprenons ici que Jonas avait prophétisé en d'autres occasions qu'en celle dont le récit nous est donné dans le livre qui porte son nom. Il avait donc eu d'autres missions que celle qui va nous intéresser dans l'étude de son livre. Et puis, nous voyons bien ici que c'est le même, puisque fils d'Amittai. Nous voyons aussi qu'il vivait sous le roi Jéroboam II, dont le règne se situe de 824 à 783 avant Jésus-Christ. Rappel, vous savez que là, les nombres vont en décroissant. 824 à 783 avant Jésus-Christ. Et il était donc contemporain d'Amos et d'Osée, qui eux aussi ont vécu sous ce règne. Il était de Gath-Hépher, nous dit le texte des rois. Ce Gath-Hépher est situé en Galilée et appartenait donc à la tribu de Zabulon. Voilà les seuls renseignements que nous avons sur lui, mais enfin, le prophète est situé quant à son époque, ce qui est déjà intéressant. Ce qui est étonnant dans l'histoire que rapporte le livre de Jonas, et le Saint-Esprit veut que nous en soyons étonnés, c'est cette action miséricordieuse de Dieu à l'égard de Ninive, cette grande ville qui était la capitale opulente du royaume d'Assyrie, n'est-ce pas ? Je fais une différence avec la Syrie, attention, ne confondons pas la Syrie. Le royaume donc d'Assyrie avait pour capitale Ninive, et cette nation de la Syrie était acharnée, un ennemi acharné d'Israël et du règne de Dieu, bien sûr. Alors, la miséricorde, voilà ce qui est étonnant, cette miséricorde divine va s'étendre à cette capitale qui est livrée au mal, et elle va s'étendre aux enfants, nous verrons tout à l'heure, et même aux animaux. Si bien que dans ce livre de Jonas, Dieu apparaît sous le jour de sa prodigieuse miséricorde qui entend s'étendre à tout peuple, à toute nation, à tout être vivant, sous une seule condition, la condition de la repentance. Repentez-vous. Et la repentance est capable de détourner le juste jugement de Dieu, comme la prédication confiée à Jonas le montre. Alors, cela déjà nous fait penser à notre époque et nous fait dire ceci, mais si notre époque se repentait, être repentance, Dieu, en contrepartie de la repentance, peut écarter son jugement. Alors, si notre époque se repentait, bien sûr, nous ne pouvons pas nous répondre à cela, n'est-ce pas? Mais ne jugeons jamais, a priori, les choses comme impossibles. Si la terre aujourd'hui est tellement livrée, si complètement livrée au matérialisme, à l'athéisme même, se repentait, car en France, par exemple, qui est un pays d'Occident et un pays où règne encore la liberté, on peut dire même que c'est un pays qui pâtit de la liberté, ce serait plus juste, n'est-ce pas? La liberté étant poussée dans certains secteurs beaucoup trop loin. Eh bien, si donc... en France, l'on se repentait, si l'on abandonnait cette incrédulité irréductible, épouvantable, ce matérialisme, alors tout serait possible, le jugement pourrait être écarté. C'est donc une leçon pour nous. Nous posons simplement ce problème sans vouloir le résoudre, évidemment, et nous nous disons ceci. Nous posons cette question. Est-ce que nous annonçons avec foi et avec ardeur un évangile qui appelle vraiment les hommes à la repentance? Annonçons-nous le jugement prochain de Dieu? Dans la prédication confiée à Jonas, il y avait ces deux choses. Repentez-vous, car dans 40 jours, la ville sera détruite. Est-ce que nous annonçons le jugement? Deux choses, la repentance et le jugement. Or, mes amis, il faut bien le reconnaître, assez souvent, l'Évangile, maintenant, est expurgé de ces deux points essentiels. La repentance, on a peur. Non seulement on a peur, mais même on arrive à ceci maintenant. Il ne faut plus parler du péché. Ne parlez pas de cette chose. Ne parlez plus de péché, le péché qui ne figure plus même dans les catéchismes romains de nouvelle mouture. Péché, mais non, on ne parle plus de ça. Et il y a bien sûr, tout cela vient du diable actuellement, un sentiment qui cherche à saisir tous les hommes, et de par lequel il ne faut plus parler de péché, et par conséquent plus de repentance. Je connais un auteur, un grand auteur chrétien, qui a écrit bien des livres. C'est Claude Tresmontant, professeur à la Sorbonne, qui est un grand esprit, incontestablement, qui a découvert bien des choses dans le domaine du christianisme, de la doctrine chrétienne. Eh bien, lui aussi tombe dans ce travers. Et il veut que, à l'origine, en Éden, mais il n'y ait pas eu péché de l'homme. Mais non, l'homme, voyons, a été créé incomplet, inachevé. Il a été créé inachevé. Et il s'agit maintenant d'achever la création de Dieu. Et cette thèse, on la retrouve chez d'autres aussi. Tout ça pour faire disparaître la chute, le péché de l'homme. et par conséquent pas besoin de repentance. La foi, oui, on vient avec la foi, mais pas de repentance. Alors on supprime la repentance et on empêche Dieu d'agir. Et puis alors on supprime le jugement aussi, ça non plus on n'en veut pas. On ne veut plus de cela, on n'en parle pas. Vous avez dans le christianisme une bonne part des gens qui prétendent parler au nom du christianisme et qui ont écarté définitivement, délibérément, le jugement, la perspective du jugement. L'eschatologie, pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nous avons mal compris. Nous avons mal compris les textes eschatologiques. Alors, bien sûr, voilà ce qui fait que maintenant, on ne peut pas prévoir pour le monde, on ne peut pas prévoir un salut, n'est-ce pas, qui serait collectif en quelque sorte, comme il va l'être à Ninive. Alors, il faut que nous, chrétiens évangéliques, nous ayons bien compris l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, et je parle particulièrement de celle qu'il a adressée dans ce discours, nous a adressé à l'Église, dans le discours eschatologique, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Il s'agit d'un témoignage. Il ne s'agit pas uniquement, je l'ai déjà dit cela, mais il faut le redire, de convertir les gens en un, bien sûr, si vous pouvez le faire, faites-le. Et nous continuerons de le faire. Mais nous nous limitons à cela, et c'est une erreur tragique de l'Église. Il ne s'agit pas de faire une pêche à la ligne, même une pêche au filet, uniquement. N'est pas mauvais de le faire, bien sûr c'est bon, faut sauver tous ceux que le Seigneur nous donne, car c'est lui qui nous les donne, ceux que nous sauvons. Mais il faut bien plus prêcher l'Évangile en tant que témoignage pour toutes les nations, prêcher le royaume de Dieu pour cela. Jonas, qui était le prophète désigné par Dieu pour être l'instrument de cette miséricorde, que fait-il, lui? Eh bien, tout simplement, il s'indigne. Il s'indigne non pas du péché de Ninive, mais du trop de miséricorde de Dieu. Voilà de quoi il s'indigne. Et il va opposer purement une résistance à l'appel de son Dieu. Il est vrai que Jonas, était le seul prophète envoyé auprès d'un peuple païen. Il n'y avait pas de précédent. Le seul aussi que Jésus ait pris comme type de sa propre mission. Il en sera comme du prophète Jonas, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, il est le seul que Jésus ait pris comme type. Jonas est un type du Sauveur, bien que l'homme ne nous apparaisse pas sous un jour très favorable. Nous le verrons. Et cependant, il est un type du Sauveur. Le peuple d'Israël, peuple de l'Alliance, se voyait-il comme l'unique objet possible de la miséricorde de Dieu? Oui, certes, il y avait cela. Eh bien, l'Église aujourd'hui aurait-elle épousé cette vue égoïste qui est en somme un défi fait à l'amour divin? Dieu a tant aimé le monde, pourtant, nous dit le Seigneur Jésus, a tant aimé le monde, tout le monde entier, même le monde, ce monde qui est inimitié contre Dieu. Eh bien, Dieu l'a pourtant aimé, ce monde, jusqu'à donner son Fils et jusqu'à ce que il y ait salut pour quiconque croit en lui. Dans un certain passé, un passé récent encore, il est vrai que l'Église avait cette même position qui était celle de ce particularisme national d'Israël d'autrefois. C'est vrai que l'Église a été comme cela. Elle ne l'est plus maintenant, je ne crois pas, ou tout au moins dans son ensemble, non. Mais malheureusement, les choses ne sont pas meilleures aujourd'hui. Les choses ne sont pas meilleures. Ce particularisme a disparu, je pense. Seulement, il y a eu un renversement de cet accaparement de la miséricorde divine au profit de l'Église, au profit du peuple de Dieu, pour tomber, pour que l'on tombe dans un autre excès. Et cet autre excès est celui de prétendre que Dieu entend certes sauver le monde, qu'il veut sauver le monde entier, mais sans qu'il soit question de jugement ni de repentance. Alors les choses ne sont pas meilleures, loin de là. D'un côté, c'était le particularisme, l'égoïsme d'un peuple de Dieu qui dit « Le salut, c'est pour moi seul, les autres sont bons pour l'enfer ». Il y a eu cette position d'ensemble. Et puis maintenant, alors non, tout le monde va être sauvé, tout le monde, quelle que soit sa religion maintenant, tout le monde sera sauvé sans repentance et sans jugement, sans qu'il y ait intervention du jugement de Dieu. Alors ça, n'est-ce pas, c'est évidemment l'erreur épouvantable de ce qu'on appelle l'universalisme. Tous les hommes, en définitive, seront sauvés, qu'ils se soient repentis ou pas. Il n'est même plus question de se repentir. Alors, ce n'est toujours plus la miséricorde de Dieu que l'on proclame, mais un avenir qui est tout simplement abandonné au diable et au mal. Revenons à Jonas. La miséricorde de Dieu veut se servir du peuple de l'Alliance qui a été autrefois le peuple d'Israël et qui maintenant est l'Église. Alors, la miséricorde de Dieu veut se servir du peuple pour gagner beaucoup d'hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, et un résultat est déjà apparent dans le prophète Ésaïe. Il y a déjà un résultat qui nous est révélé là, dans le chapitre 19, verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Mais Israël n'est pas tout seul dans cette bénédiction. Voilà deux grands peuples, ces deux ennemis précisément, les deux mâchoires de l'étau qui a constamment enfermé Israël, menacer Israël, les voici maintenant dans la conversion à l'Éternel, ils servent l'Éternel en plein accord, en commun avec l'héritage de l'Éternel, c'est-à-dire Israël. Voilà donc déjà quelque chose qui est annoncé par le prophète. Et Dieu envoie son Fils sur la terre pour être quoi ? La lumière des nations. Lumière de toutes les nations. Rappelons-nous aussi, et je pense à ce particularisme qui a sévi dans l'Église comme autrefois en Israël, rappelons-nous l'attitude des apôtres, eux ils étaient juifs bien sûr, à l'égard de Pierre, de l'apôtre Pierre, après sa visite chez Corneille. Ah mais ça ne va pas tout seul. Les autres apprennent la nouvelle et ils sont pas contents. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Oh, des païens qui reçoivent la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et vous ? Et pourtant, le Seigneur avait bien dit devant ses apôtres qu'ils iraient porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas voulu recevoir cela, voyez-vous ? Alors Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Alors là, le Seigneur lui montre des animaux impurs et lui dit « Tu et mange !»« Ah non, Seigneur, je ne veux pas, Pierre lui-même !»« Ah non, 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 je ne veux pas !» Et puis enfin, Dieu le convainc par cette vision, si bien qu'il se rend chez Corneille et agit comme nous le savons, mais les autres, eux, n'arrivaient pas à comprendre la chose. Alors, il faut que Pierre expose cela, et devant l'autorité, évidemment, de cette vision, de cet événement, on s'incline. Mais vous voyez comme il y a eu toujours ce particularisme. L'Église est bien le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, elle a bien sûr des grâces que les autres n'ont pas, sur le moment, bien sûr, pour un avenir assuré, bien sûr. Mais attention, l'Église doit s'efforcer de s'élargir en gagnant sur le monde païen. Elle est là pour apporter la miséricorde au monde païen. Pour que le livre de Jonas, qui montre à quel excès peut conduire cet esprit particulariste d'Israël, pour que, alors, ce livre ait été admis dans ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire dans la collection des livres considérés comme inspirés, et cela a été fait par des savants juifs autrefois, eh bien, il faut vraiment admettre que le canon, c'est-à-dire la réunion des livres désignés comme inspirés, n'est pas été l'œuvre des hommes. Ce n'est pas les hommes même qui ont présidé à cette collection des livres saints, c'est certainement l'esprit, car autrement, les juifs ne l'auraient pas fait entrer dans le canon. Le livre de Jonas se divise en quatre parties, qu'il est simple, très simple d'énoncer. Premièrement, la désobéissance de Jonas, sa fuite et les conséquences de cette désobéissance. Deuxièmement, la prière de Jonas dans le ventre du poisson et sa libération de cette prison vivante. Troisièmement, l'exécution de la mission confiée à Jonas et la repentance des Ninivites. Et quatrièmement, le mécontentement, la mauvaise humeur de Jonas et les remontrances que l'Éternel va lui adresser. Et dans tout cela, nous avons une moisson, vous allez le voir, une moisson très grande et magnifique. D'enseignement. C'est extraordinaire comme dans ce petit livre, le Seigneur a pu faire entrer même tant de leçons. Alors, nous revenons donc au début de notre livre de Jonas, les trois versets que nous avons lus. Le récit commence par la conjonction et, ou par or. On peut traduire, certains traduisent l'hébreu par et ou par or. Et notre traducteur second l'a tout à fait supprimé, lui. Il n'a pas voulu le maintenir. Mais cependant, ça existe dans le texte hébreu. En somme, le livre serait « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas » ou bien « Or, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas ». Cette forme indique une chose qu'il est pourtant bon de maintenir, et qu'il y a continuation d'un exposé qui prend place dans un grand ensemble. Cela veut dire, en somme, après tout ce qui a déjà été écrit, eh bien, voici encore quelque chose qui doit être ajouté à ce qui est écrit. Il y a continuation d'un exposé prenant place dans un grand ensemble, et ce grand ensemble, c'est la grande histoire du règne de Dieu qui vient. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avons dit qu'elle était la capitale de la Syrie, elle est déjà désignée, d'ailleurs, dans Genèse, chapitre 10, au chapitre 10, versets 11 et 12, « De ce pays sortit Assur, qui bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, et Rezen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. » Donc, vous voyez que Ninive était une ville très ancienne. Elle était située sur la rive gauche du Tigre. Est-ce que nous On a des raisons de penser que cette ville fut plus grande encore que l'antique Babylone. C'était la première ville du monde de l'époque. Son tour équivalait à 3 journées de marche à pied. Elle comptait plus de 120 000 créatures humaines qui ne savaient point discerner leur main droite de leur gauche. Ça, c'est, nous le trouvons dans le récit de Jonas. Et on a pensé que cette expression, après bien des certains rapprochements, cette expression désignait des enfants, des petits-enfants. Des enfants, mettons, de 2 ans et au-dessous. Si bien que la population aurait pu être d'environ 600 000 âmes. C'était donc une ville peuplée. Les murailles étaient hautes, larges, 3 chars, dit-on, pouvaient y marcher de front, et elle était fortifiée par 1500 tours, ayant une hauteur double de celle de la muraille. Peu avant la mission de Jonas, le roi d'Israël dut consentir au roi d'Assyrie une rançon de 1000 talents d'argent pour l'éloigner un peu du territoire d'Israël. L'Assyrie exerçait donc une pression, elle était forte, une pression sur Israël. Cela, nous l'avons dans 2 Rois, chapitre 15, versets 19 et 20. Et la parole de Dieu à Jonas est celle-ci, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Certains traducteurs mettent « prêche contre elle ».« Prêche contre elle ».« Crie », c'est en effet justifié par le fait qu'il s'agissait de prêcher à l'air libre et à très haute voix. Il y a beaucoup d'exemples de prophéties menaçantes à l'adresse de peuples païens. Mais ces prophéties étaient généralement prononcées devant le peuple d'Israël pour l'avertir lui-même et le détourner de toute alliance avec des peuples païens. Tandis que ici, le prophète Jonas doit aller vers la capitale païenne, la capitale assyrienne, et prononcer son avertissement devant des païens, non plus devant des Israélites. Notons-le, c'est peut-être une des choses qui a effrayé Jonas. Leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avons cette même expression dans la Genèse concernant Sodome et Gomorre. Là aussi, la méchanceté, c'est-à-dire, en somme, tout le mal qui se faisait sous la perversité, est monté jusqu'à Dieu.
Nahum, le prophète Nahum, nous indique que cette perversité, c'était surtout l'orgueil allié à la cruauté, la volupté, et puis toujours cette propension à se jeter sur des peuples d'alentour et à les dépouiller. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tarsis, c'est une localité, un port, qui était situé au sud-ouest de l'Espagne. C'est peut-être la ville de Cadix. Cadix. En tout cas, c'est le Tartessus des écrivains profanes. Et Jonas se rend à Jaffo, c'est-à-dire à Jaffa maintenant, qui est un port sur la Méditerranée, et voilà que, justement, il trouve un navire qui va à Tarsis. Remarquons qu'il y a là, bien sûr, tout de suite une désobéissance dont nous allons nous occuper, mais observons que l'Écriture ne cache jamais les fautes des serviteurs de Dieu. C'est peut-être pour ça qu'il est préférable que nos noms n'y soient pas. N'est-ce pas? Elle cache les fautes des serviteurs de Dieu. Abraham et ses mensonges, là, tout est étalé. Les tromperies de Jacob, il n'en manque aucune. L'impatience de Moïse, pourtant cet homme qui fut fidèle, tellement fidèle, eh bien, elle est notée avec ses conséquences. L'adultère et le crime de David, cet homme pourtant qui accomplit toute la volonté de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, bah oui, et il tombe dans une terrible faute, et tout cela nous est raconté, mis au grand jour par la Bible. Le reniement de Pierre, tout cela est mis en clair devant nous dans la Bible. Et bien sûr, nous pouvons dire que la Bible est le livre de la vérité. Le diable, lui, il écrit aussi des Bibles, en écrit plus d'une, mais il transforme tout, lui. N'est-ce pas? Ce qui est noir, il le fait blanc. Voyez-vous? Alors, dans l'histoire même des hommes, on nous présente des personnages sous un aspect très avantageux pour eux, mais quand on arrive tout de même à connaître un petit peu les dessous des choses, leur vie privée, on s'aperçoit que c'était de pauvres. La Bible est le livre de la vérité. Mais pourquoi Jonas désobéit-il à l'Éternel, et cela avec un empressement extraordinaire? Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a certainement la crainte, la peur. Crainte des dangers. Il est évident que aller se présenter seul, sans défense, au milieu d'une ville puissamment armée et puissamment policée, n'était pas une perspective bien bonne, n'est-ce pas? Et on comprend que Jonas ait été saisi d'une certaine peur. Puis, il y a aussi le pressentiment d'une confusion que redoute le prophète pour lui-même, parce qu'il se dit, je vais aller prêcher la repentance. Repentez-vous, car dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais si jamais il se repente, le Seigneur est capable de ne pas la détruire, et j'aurai belle figure, moi. Moi qui serai allé prêcher la destruction, j'aurai annoncé que dans 40 jours, n'est-ce pas moi, prophète, et puis dans 40 jours, il ne se passera rien, au contraire. Ninive continuera d'exister. Alors, c'est moi qui est sur moi que tout va retomber. Il se voit, lui, enfin, nous en parlerons de cela. Et puis, on peut ajouter à cela, comme raison de cette fuite de cette désobéissance de Jonas, on peut ajouter que les préjugés judaïques à l'égard d'une mission qui n'avait aucun précédent. Aller faire quelque chose que personne n'a jamais fait, et même ne voulait pas faire, ne concevait pas comme possible, aller prêcher à des païens. Oh, ça non. Alors, toutes ces raisons, sans doute ensemble, elles ne nous sont pas indiquées par le texte, mais elles ont fait que Jonas a pris la fuite. Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel lui dit, va en Orient, lui, il va en Occident, à l'opposé, n'est-ce pas ? Juste à l'opposé, et aussi loin qu'il peut. Tarsis, après, c'était la grande mer, l'Atlantique, on ne savait pas ce qu'il y avait après ça, n'est-ce pas ? Et il ne pouvait pas aller plus loin. C'est sur la côte, donc, occidentale de l'Espagne. Nous pouvons dire ceci, c'est que si Jonas se leva, il se leva pour s'enfuir, ce qui veut dire il se met en mouvement, il se met en peine de faire quelque chose, ne sommes-nous pas nous-mêmes souvent prompts à entrer en activité pour faire le contraire de ce que Dieu attend de nous, pour désobéir à Dieu? Oh, chers amis, ça paraît peut-être gros ce que je dis là, mais il faut examiner les choses sans aucune faiblesse. On trouve en soi, et peut-être dans l'Église encore, une promptitude à se mettre en action, en mouvement. Allez, on va faire ceci, on va faire cela, oui. Puis tout ça, c'est l'opposé de la volonté de Dieu. Car remarquez une chose, on ne fait pas quelque chose qui suit d'assez près la volonté de Dieu tout en s'en écartant. Non, on fait en général l'opposé, le contraire de la volonté de Dieu. Faire l'opposé de cette volonté. Alors, il faut par conséquent toujours rester attaché, toujours interroger, savoir quelle est la volonté de Dieu. Il faut le savoir, chacun d'ailleurs pour soi et l'Église, dans son ensemble, savoir quelle est la volonté de Dieu. Et alors, Jonas donc s'en va vers l'Occident. Il voulait s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Ce qui veut dire, il voulait s'enfuir dans une contrée où l'Éternel n'était pas invoqué et que, par conséquent, il n'habitait pas. Pour lui, l'Éternel habitait là, en Israël, à Jérusalem, mais si l'on allait en Occident bien loin, là on trouverait des quantités de peuples absolument païens, étrangers, à la fois du peuple d'Israël et aux grâces que recevait ce peuple, et là l'Éternel n'y était pas. Voilà ce que ça veut dire, n'est-ce pas, ça, quelque chose, il y a là quelque chose de tout à fait pratique, il s'en va loin du pays de l'Éternel, là où il pense ne plus le trouver. Mais il oublie, il aurait pu très bien le savoir, et il devait peut-être le savoir, sûrement le savoir. Il oublie le psaume 139, verset 9, qui dit ceci, « Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Hein, Jonas n'y pense pas. Vous savez, il y a bien des choses que l'on a lues dans la Bible et que même l'on a retenues, qui pourraient très bien venir à l'esprit, mais elles n'y viennent pas quand nous sommes sous le coup d'une volonté bien arrêtée de faire une chose que nous avons nous-mêmes fixée. Nous voulons faire quelque chose, c'est l'opposé de la volonté de l'Éternel, et nous trouverons peut-être de fausses raisons dans la Bible, mais les raisons de ne pas faire la chose, nous ne les découvrons pas. Je vous dis là quelque chose qui découle d'expérience. C'est pourquoi il faut faire attention. Des chrétiens peuvent être aveuglés devant des avertissements pourtant qu'ils connaissent dans la Bible et qui ne leur reviennent pas du tout, parce que dans leur cœur, il y a une pensée bien arrêtée de faire une chose déterminée. Et cette chose est contraire à la volonté de Dieu. Jonas voulait avant tout se soustraire radicalement à cette terrible mission divine, et ce ne fut certainement pas sans un drame de conscience. Il a fallu que Jonas lutte contre sa propre conscience. Et cela, nous pouvons l'affirmer en nous rapportant aux expériences d'autres prophètes, et notamment du prophète Jérémie, au chapitre 20, du prophète Jérémie, verset 7. Là, le prophète se plaint. Il se plaint. Lui aussi, il voudrait faire, ne pas faire la volonté de Dieu. Il voudrait s'en écarter. Parce que ce que Dieu lui demande n'est pas agréable et lui procure tellement d'ennuis et de désagréments. Alors, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, et tu m'as vaincu, tu as été le plus fort que moi. Je voulais ne pas te suivre, puis j'ai pas pu, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Je ne peux pas parler simplement, il faut que je crie, c'est-à-dire aussi que je proclame les avis de l'Éternel. Que je crie à la violence et à l'oppression, c'est-à-dire que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Je ne parlerai plus au nom de l'Éternel. Voilà, j'en prends la résolution. Il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous voyez le débat. Le drame de conscience. Ah, il voudrait se soustraire, lui aussi, à cette terrible mission d'un prophète devant un peuple qui constamment irrite son Dieu. Il voudrait se soustraire à ça, toujours dénoncer la perversité, la violence. C'est fatigant, puis ça lui procure de la moquerie. Et même, on établit des complots dans sa propre famille contre lui. Alors, c'est désagréable, comme Jérémie le dit dans un autre passage. Quoi ? Moi, je n'emprunte à personne, je n'ai de tractation avec personne. Je reste justement en dehors de tout ça pour ne pas avoir d'affaires, d'histoires, de mauvaises affaires, de mauvaises histoires. Je me tiens, en somme, dans une grande prudence vis-à-vis des autres. Et puis, pourtant, je suis toujours en difficulté avec tout le monde. Et je ne suis pas en difficulté du fait de mes affaires, puisque je n'en ai pas. Mais je suis en difficulté à cause de la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me met constamment en opposition avec le peuple, en difficulté avec lui. Alors, c'est une mission, évidemment, très dure, éprouvante. Et Jonas a certainement connu un drame de conscience. Comme tout homme qui désobéit, tout chrétien, il ne s'agit pas seulement d'un prophète ou de quelqu'un qui soit chargé de ministère, mais tout chrétien qui s'écarte de la volonté de Dieu délibérément connaîtra un drame de conscience. Ce n'est pas facile d'étouffer la voix de Dieu qui a un tel écho dans la conscience. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville !» et crie contre elle. Dans son bateau, là, au fond de son bateau, Jonas, et tout au long, d'ailleurs, de sa route pour aller à Jaffa, Jonas devait entendre ça au fond de sa conscience. « Lève-toi, va à Ninive !» Lui, il s'en allait à Tarsis. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville !» Un drame de conscience, certainement. Jonas pense qu'en allant loin de l'Éternel, il cessera d'être le prophète. il peut lui-même arriver à établir cette coupure avec Dieu, et que Dieu alors en choisira quelque autre que lui. Mais la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet, nous dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 55. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli les desseins de Dieu. La parole de Dieu a été lancée ici, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Et cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans qu'elle ait été accomplie. Voilà ce qui engage le prophète. Et voilà ce qui engage aujourd'hui quelqu'un qui a l'évangile à annoncer, qui a un ministère. Et ce qui engage aussi l'Église, ce qui engage les membres de l'Église qui ont un témoignage à rendre. Je ne dis pas le témoignage seulement de leur petite conversion, n'est-ce pas ? Petite ou non, mais le témoignage de Jésus. Et ce témoignage de Jésus, on ne peut pas le contenir. Et nous sommes engagés parce que c'est une parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous, qui nous a saisis, et il faut que cette parole de Dieu s'accomplisse. Il faut qu'elle s'accomplisse. Dieu fait des vents même ses messagers. Et devant une telle désobéissance, vous voyez que les éléments même vont réagir. La mer va se soulever devant une telle désobéissance de Jonas. La mer va se soulever. Même si Dieu, on peut dire, ne lui a pas donné l'ordre de se soulever, la mer, elle, va se soulever. Il est impossible qu'une telle chose puisse être supportée. Il y a une grande harmonie dans la création de Dieu, comme nous le montre l'Épître aux Romains au chapitre 8. La mer va se soulever contre ce Jonas qui fuit sa mission. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, s'il faut qu'elle s'accomplisse, accomplissons-la librement, avec foi. Nous, nous sommes les enfants de Dieu qui doivent accomplir la volonté de Dieu avec joie et avec amour, et qui désirent la connaître exactement, cette volonté de Dieu, qui ne veulent pas étouffer dans leur conscience, cautériser leur conscience, comme il est dit, cautériser leur conscience pour ne plus avoir cet appel de Dieu à son service. Alors, accomplissons par conséquent la volonté de Dieu avec humilité, avec joie et avec amour, car sachons ceci, c'est que les ennemis même de Dieu accompliront la volonté de Dieu malgré eux. Et dans l'histoire récente, on pourrait trouver des exemples de cela, des hommes qui accomplissent la volonté de Dieu malgré eux. Dans l'histoire d'Israël, par exemple, en ce moment, et tous les hommes qui sont là autour, il y en a qui sont morts, déjà comme Nasser, par exemple. Il y a actuellement Anwar el-Sadat. Eh bien, il semble que ce ne soit pas tout à fait le fond de son cœur, le fond de sa pensée, ça, de faire alliance avec Israël. Mais la volonté de Dieu est celle-là, la parole de Dieu a été prononcée, il faut qu'il aille dans ce sens-là. Et Gog, bientôt, la parole de Dieu a été prononcée, Gog se jettera sur Israël, il faut, je t'amènerai, quand le temps sera venu, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël longtemps déserte, et où sera rassemblé le peuple dispersé. J'aurai rassemblé le peuple dispersé. Tu le sauras, et je t'amènerai, il est dit dans Ézéchiel. Tu viendras là, c'est la volonté de Dieu, et tu le feras. La volonté de Dieu doit s'accomplir. La parole, ça, il faudrait que nous soyons bien au clair et bien convaincus de cela, n'est-ce pas ? C'est capital. Dans le ciel et sur la terre, toutes les créatures fléchissent le genou. Mais nous qui sommes les enfants du Seigneur, nous apprenons à servir Dieu dans l'obéissance, comme je le disais, par crainte et par amour. En somme, Jonas fuit le pays de l'Éternel, et cela faisant, il fuit la communion, il fuit le sentiment de la présence de Dieu, il se ferme la source de la grâce, et il va tomber dans un profond sommeil, nous le verrons après, dans un dangereux sommeil, loin de l'Esprit de Dieu. Alors il s'en va à Jaffa, il trouve un navire qui allait à Tarsis, justement. Le diable avait mis un navire là, le diable lui avait suggéré. Alors il est en train de faire la volonté du diable. Et il pense qu'il va réussir à faire la volonté du diable, alors qu'il y a une parole de Dieu qui a été prononcée pour lui et sur lui. Alors, le texte nous dit, il paya le prix du transport. Il a même trouvé l'argent, voyez-vous. Ah, il est véritablement, n'est-ce pas, honnête, voyez-vous. Il ne cherche pas à obtenir un avantage quelconque. Il paye. Il paye. Il faut payer tant d'argent. Il a l'argent. Il paye. Il a tout ce qu'il faut pour désobéir à Dieu. Et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et nous verrons demain comment les choses vont tourner. Car, disons-le bien, la volonté de Dieu s'accomplira. La parole ne peut pas retourner, elle a été prononcée, l'Éternel dit et la chose doit se produire. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Oh.